VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h à Conakry. Bonjour à tous. Au Burundi, le général Cyril Ndiaye Kouryé a plaidé coupable ce lundi devant la Cour suprême qui juge 28 policiers et militaires impliqués dans la tentative de coup d'état militaire des 13 et 14 mai. Le 13 mai dernier, le général Godefroy Niyombare, ancien patron des services de renseignement, avait annoncé la destitution du chef de l'État en déplacement à l'étranger. Le putsch faisait suite à 2 semaines de manifestations brutalement réprimées, parfois à balles réelles, contre la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé. Le coup s'était soldé le lendemain par un échec et la reddition d'au moins 3 mineurs, dont le général Ndiaye Kouryé, ancien ministre de la Défense, et la fuite du général Niyombare, le chef des mutins. Au Rwanda voisin, le président Paul Kagame dit qu'il ne se sent pas concerné par la déception des États-Unis au sujet de son projet de briguer un troisième mandat. Lionel Gaïma.
Le chef de l'État rwandais a écrit dans une série de messages sur Twitter lundi que des problèmes de l'Afrique, la pauvreté, les maladies, la gouvernance et la technologie, etc., ne seront pas aisément résolus par l'attitude affichée par les États-Unis. Beaucoup de choses décevantes arrivent dans le monde et nous espérons porter notre fardeau et non celui des autres, a ajouté le président Kagame. Dans une déclaration publiée samedi, le porte-parole du département d'État américain John Kirby avait souligné qu'avec sa décision de briguer un troisième mandat, le président Kagame rate une occasion historique de renforcer et solidifier les institutions démocratiques que le peuple rwandais s'est échiné à édifier pendant plus de 20 ans. Washington avait exhorté le président rwandais de ne pas modifier la constitution pour solliciter un troisième mandat en 2017. Lors du référendum du 18 décembre, les Rwandais ont voté à plus de 98% en faveur des changements permettant à Paul Kagame de renouveler son mandat à la tête du pays.
Centrafrique, des irrégularités ont été dénoncées à l'issue de la présidentielle. Plus d'une dizaine de candidats rejettent en bloc les résultats partiels et provisoires des élections groupées du 30 décembre 2015. L'autorité nationale des élections s'en défend et charge Julius Rufin Gwandé-Baba et le porte-parole de l'ANNE.
On me parle d'irrégularité, on parle d'intimidation, on me parle de manipulation. Bon, ce sont des mots assez graves qu'il aurait fallu quand même donner des éléments de preuve, des éléments qui sous-tendent ces accusations. Donc, l'Autorité nationale des élections reste sereine, mais je voudrais, au nom de l'Autorité nationale des élections, lancer un appel à toutes les personnes qui auraient des reproches à faire à ce processus d'utiliser les voies légales qui sont prévues, qui sont en fait la saisine de la Cour constitutionnelle après que l'AME rend public les résultats qui ne sont que provisoires.
Comment ça se passe au niveau des législatives?
Au niveau des législatives, nous compilons les résultats des législatives autant que les résultats des présidentielles. Nous avons commencé la publication avec les présidentielles, mais ces publications se poursuivront par les législatives aussi.
Julius Rufin Gwandé-Baba, le porte-parole de l'AME, au micro de Pascaline Magali.
VOA Afrique en direct de Washington.
Un nouveau gouvernement en Guinée, le Premier ministre Mamadi Youla a formé hier un cabinet composé pour moitié de nouveaux membres. Bagassi Koura.
Ce gouvernement comprend aussi plusieurs femmes à des postes importants tels que l'économie et les affaires étrangères, selon un communiqué de la présidence. La nouvelle ministre de l'économie et des finances est Malado Kaba, âgée de 44 ans. Selon le communiqué, elle a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à la Commission européenne dans le domaine du développement. Makale Kamara, ancienne ministre de l'Agriculture sous le régime militaire du président Lassana Conté, devient ministre des Affaires étrangères. Le président Alpha Condé a débuté le 21 décembre dernier son second mandat et nommé 5 jours plus tard un nouveau premier ministre, Mamadi Youla, âgé de 54 ans, issu du secteur privé, en remplacement de Mohamed Saïd Fofana.
Côte d'Ivoire, le ministre de la Justice clarifie les grâces pour les détenus annoncées par le président Alassane Ouattara au Nouvel An, soulignant qu'une centaine de détenus de la crise post-électorale allaient bénéficier de liberté provisoire dans l'attente de leur jugement. Tatiana Mosso.
Dans son discours à la Nation, le président avait assuré s'être engagé personnellement en faveur de la réconciliation nationale et s'était félicité de la libération provisoire de détenus de la crise post-électorale. Juste après, il avait annoncé user de son droit de grâce, soulignant que la mesure concernait 3100 personnes, générant une confusion sur ce qui allait bénéficier de la mesure. En fait, la grâce concerne essentiellement des prisonniers de droit commun, même si une poignée de personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale pourront en bénéficier. La plupart n'ont pas encore fait l'objet de jugements, il y en a 234 au total. Il y en a une centaine à qui les juges ont estimé pouvoir accorder la liberté provisoire, a indiqué M. Koulibaly. Le ministre a précisé que l'ensemble de la population carcérale avant la grâce s'élevait à 12 000 détenus pour 7 000 places et donc qu'un quart des prisonniers allaient être libérés. Pendant la campagne, l'opposition qui a sans cesse réclamé la libération des prisonniers politiques a reproché à Ouattara de ne pas avoir réconcilié le pays et de mettre en œuvre une justice des vainqueurs. L'opposition est déçue, ce sont les prisonniers de droit commun qui vont être graciés, mais quant aux prisonniers politiques, cette grâce ne résout pas le problème, avait estimé le 31 décembre Céry Gouagnon, membre du parti de l'ancien président Gbagbo.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et la rupture des relations diplomatiques par l'Arabie Saoudite, Bahreïn et le Soudan, deux pays qualifiés de vassaux, n'a aucun effet sur l'Iran, a affirmé le porte-parole du gouvernement iranien. Des médias iraniens et des acteurs des réseaux sociaux ont tourné en dérision l'échec de l'Arabie Saoudite à mobiliser un nombre important de pays, notamment de la région, contre l'Iran. Les États-Unis appellent à la retenue dans la crise Iran-Arabie Saoudite. Pour l'ambassadeur John Limbert, ancien diplomate américain à Téhéran, l'Iran et l'Arabie Saoudite avaient de mauvaises relations, mais les deux pays n'étaient jamais allés aussi loin dans leur confrontation. Bagasikoura.
C'est une nouvelle situation, a dit l'ambassadeur Limbert. Les États-Unis sont dans une position difficile dans ce conflit entre l'Arabie Saoudite, alliée de toujours, et l'Iran, avec qui les puissances mondiales ont conclu un accord historique portant sur le contrôle de son programme nucléaire. Washington n'a aucun moyen de pression sur l'un ou l'autre pays, estime l'ambassadeur Limbert.
Il y a des gens des deux pays qui veulent faire monter la tension et qui cherchent une confrontation. Et je pense qu'il y a sûrement ceux qui ne veulent pas la confrontation.
Pour l'heure, ce sont les extrémistes des deux camps qui semblent contrôler la situation, a noté l'ambassadeur Limbert. Même si les États-Unis le voulaient, ils ne peuvent rien faire pour l'Iran, pense l'ancien ambassadeur américain.
Dans tous les cas, Washington ne peut pas sauver les Iraniens de leurs propres erreurs. Ils ont foncé dans le piège tendu par les Saoudiens dans l'affaire de l'incendie de leur ambassade.
Des voix se sont élevées au sein du gouvernement iranien, y compris celle du président Rouhani, pour condamner l'incendie de l'ambassade saoudienne, et c'était nécessaire, a dit l'ambassadeur américain. Cet incident lui a rappelé sa propre expérience iranienne. Il faisait partie des diplomates américains pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran en novembre 1979 et retenu pendant 444 jours.
C'est très triste. C'est à se demander si certaines personnes en Iran, après 35-36 ans, n'ont toujours rien appris.
Le président français François Hollande a lancé aujourd'hui les commémorations des attentats de janvier 2015 à Paris en dévoilant une plaque à la mémoire des victimes de l'attaque contre le journal Charlie Hebdo. Accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo, il a dévoilé ensuite une autre plaque à l'endroit où un policier a été abattu près des lieux de la tuerie le 7 janvier contre l'hebdomadaire. Une troisième plaque devait être dévoilée aux abords du supermarché Cacheur dans l'est de la capitale française, visée par une attaque le 9 janvier. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Soo-yong, va assister ce mois au Forum économique mondial de Davos, une première depuis 18 ans, selon l'AFP. Le Forum économique mondial, inauguré en 1974, réunit chaque année les dirigeants politiques et les plus grands chefs d'entreprise de la planète dans la station de sport d'hiver de Davos. à l'est de la Suisse. Cette année, le forum se tiendra du 20 au 23 janvier. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain rendez-vous dans 50 minutes avec Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.